Il est 7h.
C'était juste pour marquer un coup d'éclat et puis leur faire comprendre qu'on avait besoin de travailler aussi, on n'était pas là pour faire la guerre.
Après le blocage du port de Jersey hier, les pêcheurs français comptent désormais sur un relais politique. La bataille se jouera à Bruxelles pour obtenir de Londres le retrait de nouvelles conditions imposées pour pêcher dans ces eaux. Après les États-Unis, la France ou la Russie favorable à une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, mais cette mesure permettra-t-elle vraiment une meilleure diffusion des doses dans le monde ? Élément de réponse dans un instant. Dans ce journal aussi, des dysfonctionnements et une inspection lancée après le féminicide de Mérignac. Et puis, un derby décisif ce soir en Ligue 1, Lens qui vise l'Europe et Lille, le championnat, s'affronte à partir de 21h. Juste après ce journal, l'éclairage éco de Nicolas Barret, juste avant le regard international, Vincent Hervouette.
Les Américains se replient d'Afghanistan plus vite que prévu, les talibans gagnent du terrain et les réfugiés se préparent à gagner l'Europe.
Et l'édito sport de Virginie Fulpin.
Mais ce sont des Coupes d'Europe, la Super League ou le championnat d'Angleterre. Les clubs anglais ont la main mise sur le foot européen cette année.
Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern, notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des tensions en mer et des discussions à terre. Le coup de pression des pêcheurs normands hier. Blocage du port de Jersey sous le regard de patrouilleurs français et britanniques. Au final, pas d'avancée. Mais un appel à faire bouger les lignes en haut lieu concernant de nouvelles conditions de pêche dans les eaux britanniques. Reportage dans le port de Barneville-Carteret dans la Manche. Nicolas Fellmann pour Europe 1.
Retour triomphal pour les pêcheurs normands accueillis par une vingtaine d'habitants. Michel Duchemin accoste sur le port après de longues heures devant l'île de Jersey.
C'était juste pour marquer un coup d'éclat et puis leur faire comprendre qu'on avait besoin de travailler aussi, on n'était pas là pour faire la guerre.
Pour ces pêcheurs, ces eaux britanniques riches en poissons représentent parfois plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Ces nouvelles restrictions sont donc inacceptables pour Camille Lécureuil, marin pêcheur.
J'ai le droit de faire les bulots dans les eaux anglaises, mais j'ai pas le droit de faire les casiers à crustacés dans les eaux anglaises. C'est politique tout ça, c'est politique.
Comme l'impression que tout cela se décide loin d'eux, entre Londres, Paris et Bruxelles. Une situation qui crée de nouvelles tensions. Exemple, quand un bateau anglais s'approche du port.
C'est de la provoque.
Cela suscite la colère des pêcheurs français.
Il y a un anglais le jour même de la manifestation, et il vient se pointer avec des homards et puis livrer sa Carteret comme si de rien n'était. Il va dégager vite fait.
Hey, no good! Yes, problem!
Les deux pêcheurs anglais parlementent. Ça se joue entre nos gouvernements, pas à notre échelle, se défendent-ils. Rien à faire, sous pression, ils devront faire demi-tour sans avoir déchargé leur cargaison. Barneville-Carteret, Nicolas Feldman, Europe 1.
Les tensions restent donc vives, on l'entend. Et c'est à Bruxelles que se joue ce dossier désormais, car la pêche était l'un des points clés de l'accord sur le Brexit. Isabelle Horry, vous suivez les affaires européennes pour Europe 1. Un accord qui n'a donc pas tout réglé.
Ça devrait être le cas, mais les Britanniques ne respectent pas ce qu'ils ont signé, affirme Bruxelles. Certes, comme prévu, ils ont bien accordé le 1er mai des licences de pêche à 41 bateaux français pour pêcher au large de Jersey. Mais voilà, le 30 avril, à la toute dernière minute donc, Londres a écrit à Bruxelles pour rajouter des conditions qui n'étaient pas prévues sur le nombre de jours en mer autorisés ou sur le type d'engin de pêche autorisé. Officiellement, c'est maintenant l'Europe qui doit gérer le conflit, c'est elle qui a signé le traité de Brexit. À ce stade, la Commission essaye de trouver une solution à l'amiable. Le contexte électoral en France et au Royaume-Uni n'aide pas, souffle un spécialiste. Et pourtant, il faut garder les nerfs solides parce qu'il reste d'autres sujets pêche à régler avec Londres. Les quotas de pêche pour cette année encore ne sont pas définitivement fixés. Et c'est compliqué aussi pour les licences de pêche dans la zone côtière. Un diplomate résume, c'est la première année, chaque camp essaye de marquer son territoire.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1 et dès hier, les pêcheurs français appelaient le gouvernement à mettre ses menaces de coupure d'électricité à Jersey à exécution s'ils n'obtenaient pas gain de cause.
Le débat agite la communauté internationale ces dernières heures. Face à la pandémie, faut-il lever les brevets sur les vaccins anti-Covid ? Les États-Unis ont ouvert la brèche, on vous en parlait hier, mais on a voulu aller plus loin ce matin.
Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Les États-Unis rejoints hier dans cette démarche. Marche par la France et la Russie. L'Europe, de son côté, se dit prête à discuter. D'abord, pour être très clair, Victor, quand on dit lever des brevets, de quoi parle-t-on précisément ? Quels sont les enjeux ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les brevets, c'est la recette de fabrication du vaccin. Et ce brevet, il appartient au laboratoire pharmaceutique qui l'a mis au point. Lever ses brevets, ça revient donc à obliger un labo à donner sa formule à tous ses concurrents. Ça peut paraître étonnant, mais il ne faut pas oublier que la recherche a été en partie subventionnée par les États. Alors pourquoi cette annonce intervient maintenant ? Tout simplement parce que, certes, la campagne de vaccination accélère dans les pays riches, mais elle piétine dans les pays pauvres. Et le risque, c'est que de nouveaux variants s'y développent et viennent ensuite contaminer les populations vaccinées. C'est l'effet boomerang, d'où cette idée de lever des brevets.
Alors on comprend bien l'idée, donc, hein, permettre à tout le monde, pays pauvres compris, d'avoir accès au vaccin. Est-ce que c'est aussi simple ? Est-ce que c'est faisable ?
Oui, c'est faisable au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Il faudra tout simplement l'unanimité des pays membres qui négocieraient la levée de ces brevets avec les laboratoires en échange de contreparties. Ensuite, il ne faut pas imaginer qu'une fois la décision prise, les flacons de vaccins sortiront des usines du monde entier en un claquement de doigts. Entre le transfert de technologie, les certifications et les contrôles, il faudrait 18 mois minimum. Donc très concrètement, si la décision est prise cet été au sein de l'OMC, les premières doses seront produites fin 2022. L'économiste de la santé Frédéric Bizard est favorable à cette levée des brevets pour les vaccins, mais selon lui, ça ne sera pas du tout suffisant.
Le frein essentiel à la production des vaccins, c'est principalement le manque de capacité, d'infrastructure de production d'ARN messager. Donc il faut investir dans les infrastructures. Si vous prenez la France, brevet ou pas brevet, la France n'a toujours pas jugé important d'investir dans des usines de production ARN messager.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, un site de production de vaccins ARN messager, ça coûte environ 150 millions d'euros. C'est capital pour la France d'en avoir un, non seulement pour cette lutte contre le coronavirus, mais aussi pour la lutte contre d'autres pathologies et notamment le cancer dans les prochaines années.
Des investissements nécessaires donc et une unanimité requise à l'OMC, ça on le retient, Victor, c'est mal parti. L'Allemagne et la Suisse notamment se disent favorables de leur côté à la protection des brevets. Dossier signé Victor Dolande pour Europe 1.
600 000 injections en 24 heures, la campagne de vaccination s'accélère en France et ça n'est pas fini.
Oui, puisque dès lundi, les plus de 50 ans sans comorbidité pourront se faire vacciner. Mercredi ensuite, toute personne de plus de 18 ans pourra prendre rendez-vous la veille pour le lendemain si des créneaux restent disponibles.
La vaccination comme un laissez-passer pour les voyages. Avant même l'entrée en vigueur d'un pass sanitaire européen le mois prochain, des expérimentations ont déjà commencé. Illustration avec Aurélien Fleureau à l'aéroport d'Orly sur les liaisons assurées par Air France entre le continent et la Corse.
On va scanner le QR code, on voit que le test est négatif, on voit la date et l'heure de prélèvement.
Orly Terminal 3, zone dépose bagages. Luce se rend à Bastia, téléphone en main avec l'application Tous Anti-Covid ouverte.
Pour l'instant, j'ai pu mettre sur l'application que ma PCR d'hier. Pour l'instant, je n'ai pas pu rentrer mes certificats de vaccination. Je vais encore souvent parce que j'ai ma famille, j'y retourne en juillet et en août après. Et la prochaine fois, je pense que j'aurai moins de papiers que ça.
Il faut encore attendre pour intégrer une preuve de vaccination, mais déjà le contrôle des tests PCR est plus fluide, explique Fabienne et Mathieu.
Ça permet de gagner du temps et d'être plus serein, quoi. Puis voilà, c'est plus pratique.
On va arriver avec le pass sanitaire bientôt et donc l'attestation de vaccination, ça sera aussi sur l'appli, enfin, il y aura tout au même endroit.
Plus rapide et plus fiable, confirme Guillaume Benos, directeur adjoint de l'escale d'Orly Air France.
L'application nous donne instantanément la validité de ce test, ce qui était toujours un peu plus compliqué avec le format papier du certificat, aussi bien en termes de validité des 72 heures que de résultats, puisque tous les formulaires papier étaient un petit peu différents.
Objectif, être prêt pour l'été, alors qu'une première expérimentation avec l'application AOK Pass testée il y a un mois par Air France à Roissy a été moins convaincante, principalement parce que tous les laboratoires n'étaient pas partenaires.
Un pass sanitaire ou clé dématérialisée dans les hôtels quand le tourisme se met au sans-contact, on y reviendra hein, tout à l'heure dans le journal de 8h.
Hein. Il est 7h09. Protéger les victimes, suivre leurs bourreaux, le double enjeu, pas si simple, des affaires de violence conjugale.
Oui, comme le montre une nouvelle fois le féminicide de Mérignac, une femme de 31 ans brûlée vive par son mari. Une inspection est lancée pour tenter de comprendre comment il a pu s'en prendre à elle malgré une récente condamnation et une interdiction de s'approcher d'elle.
D'ores et déjà, plusieurs défaillances ont été relevées par la justice. Marion Dubreuil, il s'agira maintenant d'en comprendre les origines.
Oui, dès la plainte de Chahinez le 15 mars dernier, le suspect en infraction de son sursis probatoire aurait dû retourner en prison. Introuvable à l'adresse qu'il avait donnée à sa sortie de détention, il était recherché par les policiers, mais au même moment, il continuait son suivi, normalement, avec son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qu'il a vu deux fois, en mars et en avril, comme nous l'a appris la procureure de Bordeaux, Frédéric Portery.
Il s'est présenté aux convocations et a justifié du respect des obligations de travail et de soins. En l'état, je l'indique, et je le précise de ses seules déclarations, il a reconnu être entré en contact à plusieurs reprises avec la victime, et ce, en totale contradiction avec les interdictions qui lui avaient été notifiées.
Deuxième défaillance, le suspect avait lui-même confié à son conseiller pénitentiaire qu'il avait enfreint une des mesures à laquelle il était soumis. Pourquoi cela n'a pas été un motif de révocation de son sursis probatoire ? Est-ce qu'il s'agit d'une décision prise en accord avec le juge d'application des peines ? Les deux enquêtes administratives nous donneront les premiers éléments de réponse mardi prochain.
Marion Dubreuil, à Avignon, le dealer qui a tué un policier toujours activement recherché. Une personne est en garde à vue dans cette enquête, c'est la femme contrôlée par le policier juste avant qu'il ne soit tué.
C'est une révélation de nos confrères de la Provence ce matin. Une plainte contre X déposée cette semaine devant le parquet de Marseille pour un terrible bizutage au sein de l'armée.
C'était en 2019, un jeune militaire ligoté, cagoulé et attaché par ses camarades à une cible au milieu d'un champ de tir, et ce au moment même où des Mirages en exercice s'entraînaient justement au tir. Ça s'est passé sur la base aérienne de Solenzara en Corse. L'armée assure qu'une enquête a été ouverte. La politique et les suites du psychodrame politique en PACA. Le maire de Nice annonce son départ des Républicains. Christian Estrosi dénonce la position du parti après l'alliance avec LREM.
La politique toujours avec un nom bien connu qui s'affiche sur la liste de la majorité sortante en Corrèze. Claude Chirac se présente au départemental et malgré l'héritage familial, elle ne fait pas nécessairement l'unanimité comme a pu le constater Stéphane Place pour Europe 1.
Une Chirac candidate en Corrèze, c'est d'abord un lien évidemment qui perdure avec le département, ce qui ne déplaît pas à Lionel, mais qui interroge tout de même Yvette, croisée ici à Brive.
Pourquoi pas ? Parce que Chirac, parce que de droite, elle est Chirac, ça fait partie de la vie corrézienne, oui.
Elle se présente, elle a quelque chose ici sur Brive ? Elle habite à Paris, donc je vois pas l'utilité qu'elle vienne se présenter ici.
Claude Chirac reconnaît avoir pris le temps de la réflexion avant de se présenter devant les électeurs du canton de Brive 2, là où sa mère a d'ailleurs achevé son engagement politique.
Le nom que je porte est une exigence supplémentaire. Mais une fois que la décision est prise, je ne me retourne plus. Pour autant, je ne suis ni Jacques ni Bernadette. Je ferai le mieux possible. Vous pourrez dire à la fin si j'ai été à la hauteur de la situation ou pas. Madame Pompidou, qui était un peu un modèle pour ma mère, disait « N'être utile à personne, c'est ne servir à rien ». Et c'est vrai que c'est mon éducation. Si vous mettez ça en regard de mon attachement viscéral à la terre corrézienne, qui est ma terre familiale, aux Corréziens, eh bien cette candidature départementale m'offre une chance extraordinaire.
Et Claude Chirac d'y compter sur les conseils de sa mère pour mener cette campagne, après avoir reçu, explique-t-elle, sa bénédiction pour cette candidature en Corrèze. Brive, Stéphane Place, Europe 1.
Le début ce soir de la 36e journée de la Ligue 1 avec ce derby nordiste aux multiples enjeux.
Lens jouera la qualification en Ligue Europa face à Lille en quête d'un titre en championnat des deux côtés. Donc les supporters sont en ébullition et Lionel Gougelot les a rencontrés pour Europe 1.
Écharpe et fumigène en bordure du terrain d'entraînement, plus de 2000 supporters lensois pour encourager les sang et or à la veille de ce derby du Nord qui sera peut-être décisif.
L'enjeu il est là, il y a la ferveur qui est là, tout est là, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire un vrai beau match, un vrai derby où on peut vraiment rivaliser dans le jeu.
Il flotte ici un vrai parfum de revanche après la défaite 4-0 à Lille au match aller. Désormais Lens joue l'Europe et les fans lensois espèrent bien que leurs joueurs feront chuter le LOSC dans sa course au titre.
Notre scénario ce serait Lens européen et qu'on Lille du titre. Là, ce serait le scénario idéal.
Gaël Kakuta, le capitaine lensois, déclare même qu'il préférerait voir le Paris Saint-Germain champion plutôt que Lille. Eh bien, figurez-vous que ça fait sourire Alex, le supporter lillois.
Ça fait partie du jeu. Je pense que c'est surtout un joueur qui a envie de se faire mousser par ses supporters. Et je pense que nous, à Lille, il y a un joueur qui dirait ça. On serait content qu'il dise ça aussi par rapport à Lens.
Franck Defenin, de la section de supporters du LOSC à Tourcoing, se régale à l'avance du défi qui attend ses joueurs.
On sait que les lensois veulent nous faire perdre le titre et nous, on veut pas qu'ils jouent l'Europe. Donc, on va là-bas pour gagner et pour mettre vraiment notre empreinte sur la région, pour dire que le LOSC, c'est le grand club du Nord.
Et au-dessus de cette rivalité ancestrale, la même amertume de chaque côté, ne pas pouvoir vivre ces grands moments au stade en communion avec les joueurs. À Lens, puis à Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Comment on dit, c'est la magie du sport, c'est ça, le bel état d'esprit des supporters dans le Nord.
Touché par ces supporters lensois, je peux les comprendre. Merci beaucoup Mario Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.